Question. Comment quelqu'un peut-il être ce qu'il n'est pas? Réponse. Facile. C'est ce que tu fais sans cesse. Observe ton comportement. Essaie de comprendre ceci. Il n'y a rien que je ne sois pas. Donc, je suis ce que je suis et je suis ce que je ne suis pas. C'est la divine dichotomie. C'est le divin mystère que, jusqu'à présent, seuls les esprits les plus sublimes ont pu comprendre. Je te l'ai révélé ici de façon qu'un plus grand nombre de gens puissent comprendre. C'est le message du tome 1. Et cette vérité fondamentale, tu dois la comprendre. Tu dois la connaître profondément. Si tu veux comprendre et connaître les vérités encore plus sublimes à venir, ici dans le tome 3. Mais à présent, permets-moi d'arriver à l'une de ces vérités plus sublimes, car elle est contenue dans la réponse à la seconde partie de ta question. Question. J'espère qu'on revienne à cette partie de ma question. Comment le parent aime-t-il l'enfant s'il dit ou fait ce qu'il y a de mieux pour l'enfant, même s'il doit contrarier le désir de celui-ci pour le faire? Ou le parent fait-il montre de l'amour le plus sincère en laissant l'enfant jouer dans le trafic? Réponse. Voilà une question merveilleuse. Et c'est la question que pose chaque parent, d'une façon ou d'une autre, depuis que les parents existent. La réponse est la même pour toi en tant que parent que pour moi en tant que Dieu. Question. Alors, quelle est la réponse? Réponse. Patience, mon fils, patience. Tout vient à point à qui sait attendre. As-tu jamais entendu cela? Question. Oui, mon père me le disait, et je détestais ça. Réponse. Je comprends. Mais sois patient avec toi-même, surtout si tes choix ne t'apportent pas ce que tu crois vouloir. La réponse à la seconde partie de ta question, par exemple. Tu sais que tu veux la réponse, mais tu ne la choisis pas. Tu sais que tu ne la choisis pas parce que tu ne fais pas l'expérience de l'avoir. En vérité, tu as la réponse et tu l'as toujours eue. Seulement, tu ne la choisis pas. Tu choisis de croire que tu ne connais pas la réponse. Donc, tu ne la connais pas. Question. Oui, tu as parlé de cela aussi dans le tome 1. J'ai tout ce que je choisis d'avoir maintenant, y compris une idée complète de Dieu, mais je ne ferai pas l'expérience du fait que je l'ai à moins de savoir que je l'ai. Réponse. Précisément. Tu l'énonces parfaitement. Question. Mais comment puis-je savoir ce que je fais avant d'avoir fait l'expérience du fait que je le fais? Comment puis-je savoir une chose dont je n'ai pas fait l'expérience? N'est-ce pas un grand esprit qui a dit « Tout savoir est une expérience » Réponse. Il s'est trompé. Le savoir ne suit pas l'expérience. Il la précède. Là-dessus, la moitié du monde pense à rebours. Question. Alors tu veux dire que j'ai la réponse à la seconde partie de ma question, mais que je ne sais pas que je l'ai? Réponse. Exactement. Question. Mais si je ne sais pas que je l'ai, alors je ne l'ai pas. Réponse. Voilà le paradoxe. Oui. Question. Je ne comprends pas, sauf que je comprends. Réponse. En effet. Question. Alors, comment puis-je arriver à savoir que je sais quelque chose si je ne sais pas que je le sais? Réponse. Pour savoir que tu le sais, agis comme si tu le savais. Question. Tu as dit quelque chose là-dessus dans le tome 1 aussi. Réponse. Oui. Un bon point de départ consisterait à récapituler l'enseignement précédent. Et tu poses justement les bonnes questions en me permettant de résumer brièvement au début de ce livre dont nous avons discuté en détail dans les volumes précédents. Donc, dans le tome 1, il a été question du paradigme « être, faire, avoir » et de la façon dont les individus le conçoivent à rebours. La plupart des gens croient que s'ils ont quelque chose, plus de temps, d'argent, d'amour, peu importe, ils pourront enfin faire quelque chose, écrire un livre, développer un passe-temps, partir en vacances, acheter une maison, entreprendre une relation, ce qui leur permettra d'être quelque chose, heureux, en paix, content ou en amour. En réalité, ils renversent le paradigme « être, faire, avoir ». Dans l'univers tel qu'il est réellement, par opposition à l'idée que vous vous en faites, le fait d'avoir ne produit pas le fait d'être. C'est plutôt l'inverse. D'abord, vous êtes la chose appelée heureux, ou informé, ou sage, ou compatissant, peu importe. Puis vous commencez à faire des choses à partir de ce lieu de votre état d'être, et bientôt, vous découvrez que ce que vous faites vous apporte ce que vous avez toujours voulu avoir. La façon de lancer ce processus créatif, et c'est cela, le processus de la création, c'est d'examiner ce que vous voulez avoir, de vous demander ce que, selon vous, vous seriez si vous l'aviez, puis directement de l'être. Ainsi, vous inversez la façon dont vous avez utilisé le paradigme être, faire, avoir. En réalité, vous le remettez en place et vous travaillez avec, plutôt que contre, le pouvoir créateur de l'univers. Voici un résumé de ce principe. Dans la vie, vous n'avez pas à faire quoi que ce soit. Tout ce qui compte, c'est ce que vous êtes. Voilà l'un des trois messages auxquels je reviendrai à la fin de notre dialogue. Je l'utiliserai pour terminer le livre. Pour l'instant, et afin d'illustrer cela, pense à quelqu'un qui sait seulement que s'il pouvait avoir juste un peu plus de temps, un peu plus d'argent ou un peu plus d'amour, il serait véritablement heureux. Question. Il ne fait pas le lien entre le fait de ne pas être très heureux maintenant et le fait de ne pas avoir le temps, l'argent ou l'amour qu'il veut. Réponse. C'est cela. Par ailleurs, la personne qui est heureuse semble avoir le temps de faire tout ce qui compte vraiment. Avoir l'argent nécessaire et assez d'amour pour la vie entière. Question. Elle trouve qu'elle a tout ce qu'il lui faut pour être heureuse, en étant d'abord heureuse. Réponse. Exactement. Le fait de décider à l'avance ce que vous choisissez d'être provoque cet état dans votre expérience. Question. Être ou ne pas être, voilà la question. Réponse. Précisément. Le bonheur est un état d'esprit. Et comme tous les états d'esprit, ils se reproduisent sous forme physique. Voici une phrase à afficher sur la porte du frigo. Tous les états d'esprit se reproduisent. Question. Mais comment peut-on être heureux d'abord, ou être ce qu'on cherche à être, peu importe ce que c'est, plus prospère par exemple, ou plus aimé, si on n'a pas ce dont on pense avoir besoin pour être cela? Réponse. Fais comme si tu l'étais, et tu l'attireras à toi. Tu deviens ce que tu prétends être. Question. Autrement dit, fais semblant jusqu'à ce que tu y arrives. Réponse. Quelque chose comme ça, oui. Sauf que tu ne peux pas vraiment faire semblant. Tes gestes doivent être sincères. Tout ce que tu fais, fais-le sincèrement. Sinon, le bienfait de l'action se perdra. Ce n'est pas parce que je ne te récompenserai pas. Dieu ne donne ni récompense ni punition, comme tu le sais. Mais la loi naturelle exige que le corps, l'esprit et l'âme soient unis dans la pensée, la parole et l'action pour que le processus de la création fonctionne. Tu ne peux pas tromper ton esprit. Si tu manques de sincérité, ton esprit le sait et c'est fini. Tu viens de mettre fin à toute chance que ton esprit puisse t'aider dans le processus créatif. Bien sûr, tu peux créer sans ton esprit. Seulement, c'est beaucoup plus difficile. Tu peux demander à ton corps de faire une chose à laquelle ton esprit ne croit pas, et si ton corps le fait suffisamment longtemps, ton esprit commencera à abandonner sa pensée antérieure et à créer une nouvelle pensée. Lorsque tu as une nouvelle pensée à propos d'une chose, tu es en bonne voie de la créer en tant qu'aspect permanent de ton être, et non comme une chose avec laquelle tu te contentes de jouer. C'est une voie difficile, et même dans un tel cas, l'action doit être authentique. On peut manipuler les gens, mais on ne peut manipuler l'univers. Alors, nous voici en présence d'un équilibre très délicat. Le corps fait une chose à laquelle l'esprit ne croit pas. Mais pour que l'action du corps fonctionne, l'esprit doit y ajouter l'élément sincérité. Question. Comment l'esprit peut-il ajouter la sincérité lorsqu'il ne croit pas à ce que fait le corps? Réponse. En retirant l'élément égoïste du gain personnel. Question. Comment? Réponse. L'esprit n'est peut-être pas capable d'admettre sincèrement que les gestes du corps puissent apporter ce que tu choisis. Mais il semble savoir très clairement que Dieu apportera de bonnes choses à quelqu'un d'autre par ton intermédiaire. Par conséquent, tout ce que tu choisis pour toi-même, offre-le à un autre. Question. Voudrais-tu répéter, s'il te plaît? Réponse. Bien sûr. Tout ce que tu choisis pour toi-même, offre-le à un autre. Si tu choisis d'être heureux, fais en sorte qu'un autre soit heureux. Si tu choisis d'être prospère, fais en sorte qu'un autre le soit. Si tu choisis d'avoir plus d'amour dans ta vie, fais en sorte qu'un autre ait plus d'amour dans la sienne. Fais-le sincèrement, non pas parce que tu recherches le gain personnel, mais parce que tu veux vraiment que l'autre personne ait cela. Et toutes les choses que tu donneras te reviendront. Question. Pourquoi est-ce ainsi? Comment tout cela fonctionne-t-il? Réponse. L'acte même de donner quelque chose t'amène à faire l'expérience de l'avoir afin de le donner. Comme tu ne peux pas offrir à un autre une chose que tu n'as pas maintenant, ton esprit en arrive à une nouvelle conclusion, à une nouvelle pensée à ton propos, à savoir que tu dois avoir cela, sinon tu ne pourrais pas le donner. Cette nouvelle pensée devient alors ton expérience. Tu commences à être cela. Et une fois que tu as commencé à être une chose, tu as engagé les rouages de la plus puissante machine à créer de l'univers, ton soi divin. Tout ce que tu es, tu le crées. Le cercle est complet et tu créeras de plus en plus de cette chose dans ta vie. Elle se manifestera dans ton expérience physique. Voilà le plus grand secret de la vie. C'est ce que les tomes 1 et 2 ont servi à te dire. Tout était là d'une façon beaucoup plus détaillée. Question. S'il te plaît, explique-moi pourquoi la sincérité est si importante lorsqu'on offre à un autre ce qu'on choisit pour soi-même. Réponse. Si tu donnes à un autre d'une manière artificielle pour le manipuler afin d'obtenir quelque chose, ton esprit le sait. Tu viens de lui signaler que tu n'as pas cette chose-là maintenant. Et puisque l'univers n'est rien d'autre qu'une immense photocopieuse qui reproduit tes pensées sous une forme physique, cela deviendra ton expérience. En d'autres termes, tu continueras à faire l'expérience de ne pas l'avoir, peu importe ce que tu fais. De plus, ce sera l'expérience de la personne à qui tu essaies de le donner. Et celle-ci verra que tu cherches uniquement à obtenir quelque chose, que tu n'as rien en réalité à offrir, et que le fait de le donner constituera un geste vide dont on verra toute la superficialité égoïste dont il émane. Ainsi, la chose même que tu as cherché à attirer, tu la repousseras. Mais lorsque tu donnes quelque chose à un autre avec la pureté du cœur, parce que tu vois qu'il en veut, qu'il en a besoin et qu'il devrait l'avoir, tu découvres alors que tu l'as, puisque tu la donnes. Et c'est là une grande découverte.